Marion Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Comment raconter la dramatique histoire de ces Palestiniens chassés de leur terre en 1948 et qui vivent désormais dans des camps de réfugiés au Liban, en Syrie, en Irak, en Jordanie ou exilés partout dans le monde? Le cinéaste norvégien Mats Gorud a choisi le film d'animation Sladon Wardi, sorti en salle cette semaine en France, qui raconte cette tragédie à travers les yeux d'une petite fille de 11 ans. Le Forum des citoyennes est une table de discussion qui donne à entendre des témoignages de jeunes femmes actives et volontaires du sud de la Méditerranée. Ce forum s'insère dans le cadre du tout nouveau festival Arabofolie de l'Institut du Monde Arabe à Paris. Explication de son organisatrice, Shirin El-Messiri. En dernière partie d'émission, nous feuilletterons la presse régionale, Israël et Monde Arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous réécouter sur notre site www.rfi.fr ou en podcast sur notre appli Pure Radio. Max Gorud, bonjour.
Bonjour.
Vous avez réalisé Wardi, un film d'animation qui sort en salle cette semaine en France. C'est une histoire qui se déroule pour l'essentiel dans un camp de réfugiés palestiniens au Liban. Pourquoi avoir choisi l'œil d'un enfant pour raconter cette histoire qui est aussi et avant tout une histoire d'adulte?
I felt that the past defines the present and it defines the future.
J'ai l'impression que ici le passé définit le présent mais aussi l'avenir. Alors là, effectivement, c'est un personnage qui a 11 ans, mais sa vie est complètement liée à ce qui s'est passé en 1948. Et depuis, les personnages vivent dans un camp de réfugiés, les enfants vont dans des écoles qui sont gérées par l'ONU, leurs parents ont des difficultés à trouver du travail, leurs oncles sont peut-être parfois morts, leur famille est disséminée un petit peu partout dans le monde. Et il y a vraiment un très fort héritage du passé. Moi-même, j'ai 3 enfants qui ont 6, 9 et 12 ans. Et nous, dans nos modes de vie, on considère que l'avenir devant nous est comme une feuille blanche, qu'on peut écrire son destin. Alors que pour ces enfants palestiniens, la feuille est déjà bien remplie. C'est-à-dire qu'ils portent sur leurs épaules ce lourd passé. Il y a un vrai contraste entre ce que nous vivons nous et ce qu'ils vivent eux, parce qu'ils ont justement ce fardeau du passé apporter ce fardeau de la vie de réfugié qui se transmet de génération en génération.
You know, this past is being brought on to the new generation, generation after generation. It's really a surreal situation, and so I wanted to make a film about this somehow.
Wardi est une petite fille qui observe beaucoup, mais ne comprend pas forcément ce qu'elle voit. Sa sœur qui veut partir en Suède, ses copains plus âgés qui manifestent à date fixe. Est-ce qu'elle commence à comprendre la situation quand son arrière-grand-père lui donne la clé de sa maison quittée en 1948?
You know, for the film to work, that her family tells her the story.
Pour que le film marche, j'ai fait un peu de Wardi, cette petite fille, un personnage un peu plus ignorant que ce qu'ils ne sont en réalité, parce que les enfants même de cet âge-là dans les camps sont parfaitement au courant de l'histoire et sont bien plus informés que nous. Donc je lui ai donné une sorte de rôle de candide, et donc elle nous représente nous qui ne savons pas trop et nous apprenons avec elle au fur et à mesure. Alors la clé, c'est pas seulement symbolique, c'est une preuve physique là qui est transmise par l'arrière-grand-père, et cette transmission de la clé, c'est quelque chose qui change tout. Il faut savoir que dans les camps, les familles palestiniennes ont physiquement ces clés, ce ne sont pas seulement des symboles, ils ont les clés, ils ont les titres de propriété de leurs biens qui ont été saisis en 48. Donc c'est vraiment pas simplement un symbole. Alors après, la question c'est, est-ce qu'ils ont vraiment tous envie de rentrer en Palestine? Est-ce que c'est ça leur rêve? Leur rêve, c'est plutôt de finir l'école, d'avoir de bonnes notes et de pouvoir se construire une vie meilleure, une vie confortable. Mais quand même, pour les Palestiniens, toute cette question de l'identité reste très importante, parce que c'est ce qui leur permet d'avoir une certaine fierté, une certaine existence, de pouvoir se tenir debout plutôt que de simplement être considérés comme des gens qui habitent dans des bidonvilles, des choses comme ça. Et donc, toute cette question du droit au retour, du désir de retour, etc., c'est une question extrêmement complexe à laquelle moi-même je ne prétends pas avoir toutes les réponses.
It's a complex question about this, the right of return, where you come from, your identity, and all these, you know, these things I touch upon, and I don't have all the answers, but I try to, you know, make a film about it somehow.
Justement, est-ce que c'est un film sur la fatalité, sur le renoncement, ou au contraire un film sur la mémoire et sur l'espérance?
It's about hope in the future.
C'est un film d'espoir. C'est un film sur l'espoir. Alors, l'espoir, c'est pas quelque chose qui est palestinien en soi. L'espoir, c'est quelque chose que tous les enfants ont, particulièrement les enfants qui soient nés en France, en Norvège ou ailleurs. Les enfants ont cette qualité d'espoir. Ils veulent toujours une vie meilleure. Ils sont pleins, toujours pleins d'espérance. Et ça, c'est un caractère qui est profondément humain. Ce caractère, le fait de ne jamais renoncer, de jamais se laisser abattre, même si on est coincé dans une existence qui peut paraître quand même plutôt merdique. Mais c'est un film qui est un film humain, un film sur l'espoir d'une vie meilleure, qui nous anime tous. Alors évidemment, si on regarde des aspects politiques, l'horizon paraît sombre, voire désespérant, mais l'homme espère toujours mieux. Prenez l'exemple, par exemple, des printemps arabes qui se sont déroulés un peu partout. La jeunesse arabe s'est soulevée pour plus de démocratie. 2 ans avant, qui aurait imaginé une chose pareille? Et encore de nos jours, à Gaza, dans les territoires, tous les vendredis, les jeunes marchent. Ils font cette marche pour exiger ce droit au retour. Donc, l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Ça, les choses peuvent bouger vite. Qui sait?
So history, we don't know what will happen. That's the beauty of things, and we always have to hope for, you know, that it will get better.
Merci, Max Gorud.
Merci bien.
Je rappelle que vous êtes réalisateur du film d'animation Wardi, 2 fois primé au Festival international de Chicago. C'était en novembre dernier. Un film qui sort en salle cette semaine en France. Arabofolie est un festival de musique, des arts et des idées qui se décline 3 fois par an au printemps, au début de l'été et à l'automne. Il a été lancé cette semaine à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Nous l'évoquions la semaine dernière avec sa responsable Marie Descourtieux. Un après-midi par trimestre, au sein de ces Arabofolies, les forums de Lima invitent des membres des sociétés civiles à s'exprimer sur des thématiques sociétales, générales, résonnant dans le monde arabe. Et cette semaine, le 8 mars, il sera question des femmes et de leur place dans les sociétés arabo-musulmanes. Bonjour Shirin El-Messiri.
Bonjour.
Vous êtes la responsable de ce forum des citoyennes. De quoi s'agit-il exactement?
Alors ce forum citoyenne est un tout nouveau rendez-vous. En fait, les forums sont un nouveau rendez-vous qu'on inscrit dans ce nouveau festival des Arabofolies. Et l'idée, c'est de donner la place aux sociétés civiles du monde arabe. Vraiment d'inviter des citoyens et des citoyennes du monde arabe qui font bouger les lignes, qui font bouger activement leur société à travers leurs projets inventifs, innovants, leurs associations, leurs entreprises, et de leur donner la parole et de pouvoir les écouter.
Vous avez choisi donc ce rendez-vous avec des citoyennes, car nous sommes à quelques jours de la journée mondiale des femmes. C'est important de rappeler cette journée particulière?
Oui, c'est extrêmement important, parce que c'est un rendez-vous qui est international. Et puis aussi, puisque les femmes du monde arabe ont une situation que certains estiment particulière. Il y a aussi beaucoup d'idées reçues sur leur situation. Et c'est un questionnement qui nous a traversé, puisqu'on s'est dit, si on les écoutait, ces femmes, et si elles venaient parler d'elles-mêmes, de leurs conditions féminines dans le monde arabe et de leur quotidien dans leurs pays respectifs.
Justement, est-ce de cela dont on va parler, c'est-à-dire de la condition au quotidien des femmes au Maghreb, ou alors de la situation des femmes dans la société, donc de façon plus large, la façon dont elles abordent les métiers et leur participation à la vie publique?
Alors il y aura un peu de tout, effectivement, un peu de toutes ces thématiques, aussi bien à travers leur parcours personnel et leurs ambitions personnelles, comment elles vivent leurs conditions de femmes dans leur pays, mais aussi quelles sont peut-être les causes qui les animent et qui ont fait qu'elles ont des projets assez intéressants et des projets, on le verra, qui ont une place dans le monde arabe, mais qui aussi peuvent résonner dans la société française ou les sociétés occidentales. On a par exemple, je pense à la Libanaise Naï El Raï, qui a inventé une application pour traquer le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel dans la rue. C'est quelque chose que, je pense, toutes les femmes du monde vivent ou ont déjà vécu. On a une Palestinienne qui lance une entreprise sociale, éthique et solidaire avec un message très féministe. « I'm not your habibti », je ne suis pas ta chérie. Et elle reverse 10% de son bénéfice pour l'organisation d'ateliers pédagogiques sur les règles dans les collèges et auprès des collégiens palestiniens et des collégiennes palestiniennes. On a une illustratrice marocaine, Zainab Fassiki, qui a créé une plateforme à travers ses illustrations. Elle souhaite éduquer au corps, au genre, à la sexualité, à la féminité. Donc tout ça, ce sont en fait des problématiques, et on peut le voir, qui résonnent donc aussi bien dans le monde arabe qu'en France, que dans les sociétés occidentales, et même, je pense, auprès de femmes du monde entier.
On le voit donc, ce sont des exemples qui sont déjà culturellement évolués. Est-ce que ça correspond précisément à la situation des femmes dans le Maghreb et au Moyen-Orient?
Ce qui est sûr, c'est que ces intervenantes, elles sont jeunes pour la plupart. Elles ont entre 22 et 40 ans pour la plus âgée d'entre elles. Je pense qu'elles font part d'un mouvement qu'on peut constater peut-être à un niveau international, d'une volonté de la jeunesse de s'emparer de questions de société et de faire avancer les choses. Je ne saurais pas vous dire si c'est quelque chose qui est propre au Maghreb, au Moyen-Orient, enfin au monde arabe ou à l'international, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles font bouger les lignes, que beaucoup de femmes se retrouvent dans ce qu'elles disent, et notamment beaucoup de femmes arabes, leur famille, leur mère. C'est assez intéressant de les entendre parler justement de la réception de leurs projets, aussi bien par des personnes plus âgées que par des personnes de même génération.
Et manifestement, ce sont des actrices. Elles sont dans l'action, c'est ça qui est intéressant.
Exactement. Elles remontent leurs manches et elles font bouger les choses. Il y a aussi, par exemple, celle que je trouve particulièrement intéressante, c'est la Libyenne Inas Miloud, qui vient pour la première fois en France, et qui, elle, est amazigh, donc berbère de Libye. Elle a fondé une petite association à son niveau pour défendre le droit des amazigh et des femmes amazigh dans la société libyenne, montrer que les femmes et les femmes amazighs ont une place et peuvent avoir la parole dans la société. Et de sa toute petite association dans l'ouest de la Libye, elle est arrivée à travailler avec l'ONU à l'écriture de résolutions internationales pour les femmes dans la politique et les femmes dans la reconstruction de son pays. Donc c'est assez épatant, en fait, d'avoir cette Libyenne Inas Miloud qui, de sa petite association locale, a réussi à se hisser à un niveau national et international avec cette contribution avec l'ONU.
Chérine El-Messiri, c'est vous qui organisez ce forum des citoyennes. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour faire venir toutes ces femmes, notamment par exemple de Libye ?
Alors, sur le plan d'abord du contenu, c'était très difficile pour moi de choisir seulement 9 femmes, parce que au fur et à mesure de ma veille, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes et d'hommes aussi qui sont très engagés dans les projets féminins et féministes dans le monde arabe. J'en ai recensé une petite centaine, et puis j'ai dû m'arrêter parce que je pouvais plus sinon je me perdais dans tout ce contenu. On a eu quelques petites difficultés plutôt administratives, notamment pour Inas Miloud, donc qui vient de Libye, puisqu'il a fallu la faire venir depuis la Tunisie. En fait, le consulat de France qui traite sa demande de visa est en Tunisie, donc il a fallu qu'elle voyage seule. C'était un petit peu compliqué, mais on a réussi à le faire et on est très heureux, et elle aussi.
On peut donner donc les horaires et le lieu de ce rendez-vous du 8 mars ?
Bien sûr, donc c'est le vendredi 8 mars de 14h à 19h30 à l'Institut du Monde Arabe, au 9e étage, dans cette magnifique salle qui surplombe la Seine et qui a une très jolie vue sur Notre-Dame de Paris.
Vendredi prochain, donc, merci Chérine El-Messiri.
Merci à vous.
Orient Hebdo sur RFI.
Nous lisons maintenant la presse arabe et israélienne avec vous, Alexandre Chantier au Caire, bonjour.
Bonjour.
Et avec vous, Michel Paul à Jérusalem, bonjour.
Bonjour.
Alexandre, vos journaux se font l'écho des protestations en Algérie contre un cinquième mandat du président Bouteflika.
Oui, le régime algérien agite le spectre syrien, c'est le titre de plusieurs journaux. Il se réfère aux déclarations du Premier ministre Ahmad Ouattara au Parlement sur les appels à manifester. En Syrie aussi, ça a commencé pacifiquement et ça a fini dans un bain de sang, a-t-il dit. Mais pour certains éditorialistes, ce sont plutôt les années de plomb qui pourraient recommencer avec des milliers de morts. Des commentateurs estiment que les autorités algériennes semblent coupées de la réalité et de la profondeur du rejet d'un nouveau mandat pour le président qui est incapable de présider. Les pressions exercées à l'égard des médias algériens pour qu'ils soutiennent Bouteflika sont d'un autre temps. Écrit un autre éditorialiste, les chaînes satellitaires et les médias sociaux ont complètement changé la donne. Il y a enfin ceux qui comparent la situation en Algérie à celle de l'Espagne après la disparition de Franco, avec les fidèles du caudillo et les partisans du changement.
À la une de vos journaux, Michel, les ennuis judiciaires de Benjamin Netanyahou, peut-être un tournant décisif à quelques semaines des élections.
Vous vous en doutez, Eric, les premières pages des journaux israéliens de ce week-end sont consacrées à un seul et unique sujet, la procédure de mise en examen lancée par le procureur général israélien contre le premier ministre Benjamin Netanyahou, chef d'accusation corruption, titre Maariv, qui ne mentionne qu'en lettres beaucoup plus petites les autres accusations, fraude et abus de confiance. Il a creusé un trou et il est tombé dedans, résume un éditorialiste de Yediot Aharonot. Netanyahou est maintenant comme un animal blessé et il est encore plus dangereux, estime un commentateur du Haaretz. Un autre chroniqueur pense que ce nouveau développement permet de faire un rapprochement très frappant avec Donald Trump. Plusieurs commentateurs s'interrogent sur le timing de la décision du procureur général et l'ensemble de la presse rapporte les propos de Netanyahou immédiatement après la publication de cette décision. « Je suis l'objet d'une véritable persécution politique, une chasse aux sorcières sans précédent » dont le seul but est de faire tomber le régime de droite que je dirige.
Et contrairement à l'habitude, Michel, pas de sondage, mais une déclaration à retenir.
Oui, les journaux ont été contraints de renoncer aux sondages publiés généralement dans leurs éditions du week-end, à une exception toutefois, Israël Ayom qui affirme que Gantz réduit l'écart, mais que la droite l'emporte toujours. Il faut retenir les propos du principal rival de Netanyahou, donc l'ancien chef d'état-major Benny Gantz, qui proclame qu'en aucun cas il ne fera alliance avec Benjamin Netanyahou, une déclaration qui, pour l'ensemble des éditorialistes et commentateurs, a eu l'effet d'une bombe.
Alexandre, les journaux du Caire et du monde arabe n'en finissent pas de commenter l'Oscar du meilleur acteur décerné à Rami Malek.
Oui, et pour cause, puisque Rami Malek est le premier égyptien et arabe à obtenir ce prix prestigieux. Le fait qu'il soit aussi américain, né aux États-Unis, est considéré comme secondaire. Alors les éloges sont dithyrambiques, notamment chez les chrétiens, puisque l'acteur est copte. Toutefois, on évite soigneusement de rentrer dans les détails du rôle qui a valu à Rami Malek l'Oscar, la personnification de Freddie Mercury, du groupe Queen et de son homosexualité assumée. On préfère évoquer les rumeurs selon lesquelles l'acteur égypto-américain serait pressenti pour rien moins que James Bond. Sur Internet, le ton est différent. Rami Malek aurait été arrêté en Égypte pour incitation au vice et à des mœurs religieusement répréhensibles, écrivent des internautes.
Michel, à nouveau la violence dans les territoires occupés.
Oui, en bref, cet article à la une du quotidien Haaretz qui relate une affaire de style orange mécanique. Sans dire un mot, titre le quotidien, les soldats ont investi la maison d'un Palestinien aveugle et l'ont roué de coups alors qu'il était dans son lit. Réaction de l'armée israélienne, une enquête a été ouverte.
Et pour terminer, votre photo.
Des pluies diluviennes ces derniers jours, notamment dans la région de Jérusalem. Et la photo qui illustre tous les quotidiens, c'est celle d'un homme sur le toit de sa voiture prise dans un torrent. Rassurez-vous, Eric, il a finalement été secouru. Il est sain et sauf, mais trempé.
Ah, nous sommes tous rassurés. Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo est une émission de RFI réalisée chaque semaine par Mathias Golchani. Demain, nous donnerons la parole à la journaliste et romancière Sabrina Kassa pour son récit Magic Babel Oued sur l'Algérie et la mémoire, ainsi qu'à l'essayiste et éditrice Kenza Sefrioui pour son beau livre Casablanca, nid d'artistes sur la vivacité culturelle de la capitale économique marocaine. À demain donc, tout de suite, un nouveau journal.